autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour Autopsie et l'Histoire aujourd'hui. Grâce aux technologies de pointe de l'anthropologie médico-légale, microscope optique, scanner surfacique permettent désormais de couper les cheveux en bien plus que quatre et de faire parler même les brins d'ADN les plus anciens pour reconstituer des scènes de crime, identifier des restes, les restes humains d'un charnier, pour comprendre le développement des épidémies ou le déroulement des catastrophes. Pourquoi et comment les morts, illustres ou anonymes, ont-ils tant à dire aux vivants? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité, le médecin légiste, anthropologue et paléopathologiste Philippe Charlier, autour de la question « Comment la science fait parler les morts ?» Bienvenue.
Où est le cadavre,
hein? Ah oui. Sur elle, j'ai compté une dizaine de plaies par instrument tranchant au torse et à l'abdomen.
Organisez le retour du corps, s'il vous plaît, parce qu'il faut l'autopsie.
Ce qui est tentant et intéressant, c'est de faire parler les morts.
Contrôler si les décès sont liés à une cause criminelle ou une cause naturelle.
Pas de lésion au cou. 5 autres victimes ont eu la gorge tranchée.
D'ailleurs, ces cadavres, il y a des familles, il y a des amis.
Il faut toujours avoir un regard respectueux.
Tout ce qu'il y a sur le corps peut être un indice pour déterminer les causes de la mort.
Un mort qui est autopsié très vite est souvent plus facile à couper que quelqu'un qui est retrouvé modifié.
Et où est le cadavre?
Mais là, fais l'heure qu'on vous dit qu'on la découpe en morceaux dans la cuisine, vous êtes bouché.
Quand elle apparaît à la fin de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole fait plus de ravages que les combats sur le front. Aujourd'hui, les scientifiques sont à sa recherche. Ils tentent de retrouver le virus disparu.
Sur une scène archéologique, on a le squelette, mais l'acteur principal, c'est-à-dire pour nous les organes, ont disparu. Et on doit se débrouiller avec ce qu'il reste.
Près de 800 ans après la mort de Richard Ier d'Angleterre, les restes de son cœur embaumé ont fait l'objet d'une analyse biomédicale.
D'utiliser les outils de la médecine légiste aujourd'hui en archéologie est en train de nous ouvrir des pistes pour les historiens absolument incroyables.
Sans ces profils génétiques, il est impossible d'identifier les restes retrouvés dans les charniers.
Dans les années 60, le professeur Forchefoot démontre la présence d'arsenic dans les cheveux de Napoléon. Mais l'intoxication arsenicale n'est pas prouvée.
La médecine légale n'est pas une science exacte, donc finalement, on émet beaucoup d'hypothèses, on teste les hypothèses pour savoir laquelle est la plus vraisemblable.
La médecine légale, ce n'est évidemment pas une science exacte et les médecins légistes ne sont pas non plus tout à fait à l'heure. Notre invité, Philippe Charlier, est coincé dans les embouteillages dans un taxi. Il devrait arriver très bientôt. Nous l'attendons autour de la question comment la science fait parler les morts. Mais je vous propose tout de suite d'écouter un éclairage terrible et particulièrement éclairant. C'est celui de Sylvain Amaury. Il est médecin coordinateur à Sarajevo au sein du laboratoire d'analyse génétique de l'ICMP, le Centre international d'identification des victimes, pour identifier donc les personnes disparues dans les charniers de l'ex-Yougoslavie. Écoutez-le répondre depuis Sarajevo aux questions de notre reporter Jérémy Bazar.
Nous utilisons principalement ce qu'on appelle les STR ou microsatellites, qui sont donc retrouvés dans l'ADN nucléaire. Ces marqueurs nous permettent de déterminer avec fiabilité les relations de parenté qu'il existe entre les familles des victimes, qui nous donnent des échantillons de référence, et les profils génétiques que l'on peut générer à partir des ossements que l'on retrouve dans les charniers. Cette première étape est de collecter les échantillons d'ADN des familles, car sans ces profils génétiques, il est impossible d'identifier les restes retrouvés dans les charniers.
Existe-t-il une spécificité autour du travail que vous faites avec cet ADN?
Une des spécificités du projet en ex-Yougoslavie, c'est que les méthodes d'identification classiques, telles que les données ostéologiques ou odontologiques, n'étaient pas utilisables, puisque les corps étaient squelettisés après plusieurs années, mais aussi les corps étaient extrêmement fragmentés et mélangés, puisque après la guerre, des personnes sont revenues avec des bulldozers, ont déplacé les corps dans des charniers secondaires, et donc en raison de cette fragmentation, il était nécessaire d'utiliser les outils ADN. Nos méthodes sont à la jonction entre celles qui sont utilisées en ADN ancien et les méthodes qui sont utilisées dans les laboratoires de police scientifique. Nous essayons d'identifier en Yougoslavie plus de 30 000 personnes qui ont été portées disparues. À l'heure actuelle, nous avons identifié un peu plus de 18 000 personnes. C'est donc quelque chose qui est sans précédent. Et c'est vrai que l'échelle du projet est vraiment aussi une des difficultés que nous rencontrons.
Votre travail va-t-il au-delà de l'identification ? C'est-à-dire que vous ne faites pas que donner des noms à des morts ?
Dans le cas de l'ex-Yougoslavie, il y a aussi une composante importante au projet, à savoir que les identifications qui ont été réalisées permettent d'apporter des preuves irréfutables de l'identité des victimes des massacres, et ces résultats peuvent alors être utilisés à des fins judiciaires, par exemple lors des jugements qui ont lieu au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Souvent, la ligne de défense des personnes qui sont en jugement est que non, il n'y a pas eu tant de morts que ça, ou que les personnes qui ont été tuées étaient des soldats. Alors que si on a une identité positive, on peut donc réfuter ce genre de théorie.
D'où l'importance de ces identifications, notamment pour le tribunal pénal international. C'était l'éclairage de Sylvain Amaury depuis le Centre international d'identification des victimes de Sarajevo, un centre, l'ICMP, qui travaille également, malheureusement, j'ai envie de dire, dans de nombreux autres pays, au Chili, sur les disparus de la dictature, en Afrique du Sud, à Chypre, mais aussi bien sûr les crashs d'avions, les catastrophes naturelles, notamment l'ouragan Katrina ou le tsunami, et un organisme qui fait également de la formation, aujourd'hui, du côté de l'Irak en quête de vérité. On écoute sur RFI, en attendant notre invité, le médecin légiste et paléopathologiste Philippe Charlier, Truth, la vérité, Fada Freddy sur RFI.
Shook my shadow every day, trying to trick me into doing battle. Calling out faker only get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with the dumb mind with no defenses. But your defenses, if you can't stand or feel the pain, then you're senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside ya. Your darkness. Seen a million number doors on me horizon. Now which is the future you chosen before you gon' die? I tell you about a secret I've been undermining. Every little line in this world comes from dividing. Say you're my lover, say you're my homie. Take my chain back, slit my throat, take a bath in my blood, got to know me. All out of my secrets, all of my enemies are turning into my teachers. Because life's blind, ain't no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. I'm only loving, that's what I'm trying to do, is only loving. I'm only loving the truth I'm loving. That's what I'm trying to do, is only loving. I'm only loving the truth I'm loving. Your darkness.
Truth. En quête de vérité avec Fada Freddy, le Sénégalais, sur RFI. Autour de la question, pourquoi et comment la science fait parler les morts? Vous voilà, Philippe Charlet. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes enfin arrivé et sorti de votre taxi et des embouteillages. Vous êtes donc médecin légiste, paléopathologiste, anthropologue, chercheur au laboratoire d'éthique médicale de l'Université Paris 5. Vous dirigez l'équipe d'anthropologie médicale et médico-légale à l'UFR des sciences de la santé. Vous êtes donc médecin des morts, hein, pour reprendre.
C'est un bon résumé, Caroline.
C'est un bon résumé. Je vais citer également parmi les nombreux ouvrages que vous avez déjà publiés. Allez, on va citer Quand la science explore l'histoire, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Alors, la science explore l'histoire. L'histoire ancienne, mais aussi l'histoire récente, immédiate. On entendait juste avant que vous n'arriviez le témoignage donc de Sylvain Amaury, coordinateur du développement au sein du laboratoire d'analyse génétique du Centre international d'identification des victimes à Sarajevo, de l'importance du coup de cette quoi médecine légale adaptée là en l'occurrence à identifier les personnes qui sont dans les charniers.
Tout à fait, l'exemple de la Yougoslavie est vraiment iconique de cette rencontre vraiment fructueuse entre l'archéologie et l'anthropologie médico-légale. Et les squelettes sur lesquels doivent travailler mes collègues anthropologues médecins légistes sont des squelettes qui ont été enterrés depuis plusieurs années, voire dizaines d'années.
Qui ont parfois été remués, enfin la terre a été remuée, c'est ce
voilà, qui ont été remués, qui ont été tout simplement dans un but de dissimulation de preuves, de cadavres, etc. pour ne pas qu'on sache quel camp, et encore moins qu'on puisse facilement les identifier. Et quelles sont les techniques qui sont utilisées, hormis la génétique? Eh bien, il y a donc l'ADN, bien sûr, il y a la toxicologie, puis il y a aussi la morphologie. Et toutes les techniques de diagnostic sexuel, de diagnostic d'âge, d'origine ethnique et surtout de cause de mort des tirs par projectile à balles d'armes à feu ou à plomb, par devant, par derrière, avec des obstacles intermédiaires, etc. Tout ceci est directement inspiré des connaissances qu'on a grâce à l'archéologie. Alors, pas forcément l'archéologie grecque ou romaine, notamment pour les projectiles, mais pour une archéologie, par exemple, des guerres au sens moderne. Ça, on peut s'être formé, par exemple, sur des squelettes de soldats napoléoniens ou d'autres camps tombés à Waterloo, Austerlitz ou ailleurs. Et à chaque fois, ce type de renseignement, parce qu'on connaît les armes utilisées, parce qu'on connaît le type d'homme qui a été dans le conflit, parce qu'on sait aussi l'ancienneté des restes et le contexte général de leur mort, eh bien, ça nous fait une sorte de témoin clé, voilà, de témoin positif. On sait, dans telle circonstance, comment ça s'est passé. Et ça nous sert de substrat, de base. Et à partir de ça, eh bien, on peut travailler en Yougoslavie, au Rwanda ou ailleurs. À titre personnel, je n'ai pas travaillé en Yougoslavie ou au Rwanda, mais en revanche, ces connaissances archéologiques m'ont vraiment été très utiles sur des meurtres ou des assassinats du commun, entre guillemets, c'est-à-dire...
En tant que médecin légiste, pour résoudre des crimes...
Tout à fait, pour la justice française, en l'occurrence, pour des assassinats, et parfois avec des maquillages ou des dissimulations de cadavres, plusieurs années, voire dizaines d'années de délai post-mortem.
Mais comment ça se passe? Je pense, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est la médecine légale qui aide finalement aussi le paléo anthropologue et archéologue que vous êtes, ou est-ce que c'est l'archéologie qui aide la médecine légale aujourd'hui?
C'est dans les deux sens. Mm-hmm. C'est vraiment une émulation. C'est dans les deux sens. Un cas archéologique permet de se faire la main, entre guillemets. L'expression n'est pas belle parce que j'accorde beaucoup de respect pour les patients, y compris de l'Antiquité.
Patients, ils sont tous morts, hein, de toute façon.
Mes patients sont tous morts. Oui, oui. Enfin, ceux qui écoutent sont encore vivants, mais peut-être qu'un peu plus tard, ils seront morts dans mes mains. Non, sérieusement, ça va dans les deux sens. La médecine légale me permet de mieux comprendre des pièces archéologiques, mais surtout ma démarche, elle va dans l'autre sens. Ma démarche, étant médecin légiste avant toute chose, c'est d'utiliser l'outil archéologique et les échantillons archéologiques pour améliorer, développer et proposer de nouveaux outils utiles au diagnostic. Ce que j'appelle le diagnostic rétrospectif. C'est-à-dire que le patient est mort et on doit malgré tout retrouver sur ce qu'il reste de son cadavre, squelette, momie ou des fragments anatomiques isolés, comme une jambe par exemple, et bien retrouver l'identité du défunt, retrouver la cause de sa mort, retrouver son état pathologique, c'est-à-dire reconstituer tout son carnet de santé, mais aussi son livret de famille, c'est-à-dire lier une jambe d'un adulte à une tête d'un enfant, par exemple. Bon, l'exemple n'est pas très bien choisi, pardon, mais quand on a une catastrophe collective, par exemple...
Oui, parce que vous travaillez là-dessus aussi, sur des catastrophes collectives, sur des ossements retrouvés qui témoignent soit d'une catastrophe collective, soit d'une épidémie de...
Exactement, alors ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être aussi une sépulture collective, c'est-à-dire on ouvre un tombeau et il y a 12 personnes dedans. Je me souviens notamment d'avoir fouillé une tombe en Crète qui datait du 1er siècle après Jésus-Christ et qui vraisemblablement est contemporaine de la peste de Galien. Et en l'occurrence, il y avait 8 personnes à l'intérieur du sarcophage, dont une femme qui avait un volumineux fibromutérin qui était une tumeur bénigne au niveau de l'utérus. Et tous ces gens-là ont dû mourir de la peste, qui n'est pas une peste au sens moderne, moderne, qui est une variole au sens, on va dire, microbiologique. Ils sont tous morts pendant une très courte période et, faute de place, ils ont été tous enterrés dans un seul sarcophage qui est assez grand. Alors il y a une femme adulte et puis ensuite plein d'enfants à côté d'elle.
Mais comment fait le médecin légiste que vous êtes avec des morts aussi anciens, j'ai envie de dire? Et d'abord, ils sont plus contagieux, ces morts-là, ou...
Alors en théorie, ils sont plus contagieux. En théorie, certains préconisent quand même de se faire vacciner contre la variole ou autre. Pour un squelette, peut-être pas. En revanche, pour une momie, j'ai un collègue qui s'appelle Gino Fornaceri qui a travaillé en Italie sur le décor des Médicis et notamment il est tombé sur le corps d'un homme qui avait des stigmates de la variole, un corps momifié. Il a dû passer en quarantaine, oui, le temps qu'on vérifie que c'était bien de la variole, et c'en était vraiment, et le temps ensuite qu'on juge ou pas de la dangerosité de celle-ci, est-ce que c'était contagieux ou pas, et en l'occurrence, ça n'était pas contaminant.
Vous avez également, alors vous-même, Philippe Charlier, travaillé sur une momie infantile d'Égypte atteinte, elle, de paludisme, c'est ça?
Oui, en effet. Le paludisme est une maladie qui ne se voit pas à l'œil nu, bien sûr, on peut voir des saignements et autres, mais c'est pas spécifique. En revanche, à l'échelle microscopique, on peut mettre en évidence le parasite dans le sang circulant ou dans le sang coagulé d'un individu décédé.
Donc il faut qu'il reste du sang
coagulé. Il faut qu'il reste
coagulé.
Du sang, exactement. Si jamais on n'a pas la chance d'avoir du sang coagulé, dans ce cas-là, on peut retrouver éventuellement les anticorps. Donc identifier les anticorps développés par la personne pour lutter contre l'agent du paludisme, en l'occurrence le plasmodium, ce parasite.
Et ce qui veut dire donc que le paludisme était déjà présent en Égypte
antique. On s'en doutait, mais on n'en avait pas la preuve biologique. Avec cet article, en effet, publié dans une revue scientifique en langue anglaise, on a montré que le paludisme remontait au moins à cette période-là. C'est une momie qui est très ancienne, qui est pré-dynastique, donc avant même l'installation des dynasties égyptiennes.
Et dans quel état elles sont, ces momies? Enfin, quand vous travaillez dessus...
Elles sont comme vous et moi, mais desséchées. C'est-à-dire elles pèsent à peu près 5-6 kilos à peu près. Elles sont très sèches, très brunes, complètement déshydratées, mais en excellent état de préservation, avec des cheveux comme vous et moi, avec les yeux desséchés dans le fond des orbites.
Quel effet ça fait, Philippe Charlier? Enfin, vous êtes habitué à travailler avec sur les morts, mais est-ce qu'on s'habitue justement?
On s'habitue parce que c'est notre métier, tout simplement. Ce qu'il ne faut pas, c'est les traiter avec, comment dire... En fait, il faut une juste distance. Il ne faut pas avoir un désintérêt et il ne faut pas non plus être trop passionné, vous voyez, développer du pathos vis-à-vis de ces cas-là. Il ne faut pas pleurer parce que c'est un enfant qui est mort ou parce que c'est une femme âgée à qui on a coupé la tête ou autre chose. Non, il faut simplement rester dans l'objectivité de son travail, qu'il s'agisse d'un cas archéologique comme un enfant, en effet, de 5-6 ans mort vers 2600 avant Jésus-Christ ou qu'il s'agisse d'une femme âgée retrouvée dans son lit, quelle que soit la cause.
Alors, vous avez aussi travaillé, je crois, sur des cœurs célèbre, le cœur de Richard Cœur de Lion, c'est ça?
Oui, qui ressemble à rien du tout, avec tout le respect qui lui est dû. C'est de la poussière brunâtre, tout simplement, dans un petit reliquaire en cristal qui était à l'origine dans un reliquaire de plomb doublé d'argent. Et il n'en reste pas grand-chose, en effet, quelques grammes simplement, au Musée des Antiquités de Rouen. Ce qui est intéressant, à nouveau, c'est qu'étant microscopiste, je suis anapath de formation, donc je fais de la microscopie, et donc ça me permet de franchir une dimension et d'aller au-delà de l'œil nu. Et du coup, ça me permet de voir à l'intérieur de cet amas de substances pulvérulentes, comme ce que vous trouveriez dans le sac de votre aspirateur, si je peux dire, et bien là, vous avez des résidus de textile, du lin, datable du 12e, 13e siècle après Jésus-Christ. Vous avez des restes de pollen en très grande quantité, qu'une de mes collègues, Speranta Popescu, a identifié. Et puis également, vous avez des restes de métaux que Joël Poupon, toxicologue à l'hôpital Lariboisière, a identifié lui aussi. C'est un travail multidisciplinaire. Je vous ai cité des noms exprès pour vous dire qu'on est en général une vingtaine ou une trentaine de chercheurs à travailler.
Même... Avec des outils en plus extrêmement sophistiqués, parce qu'on l'a pas dit, mais aujourd'hui les outils, vous avez parlé de microscope, mais pas seulement, on a parlé d'ADN, les outils aujourd'hui technologiques, vous parlez de quoi, d'aller plus loin, beaucoup plus près, beaucoup
les plus... outils nous permettent d'aller plus loin, plus profondément, d'être encore plus précis, et surtout d'être beaucoup moins destructeurs. On en laisse un pour la génération suivante, et deux, on désagrège beaucoup moins les restes, donc on respecte le mort. On n'est pas obligé de détruire 50 grammes de cœur pour avoir de l'ADN. Maintenant, un dixième de gramme suffit. Ce sont des chiffres cités par exemple. Mais voilà, on a beaucoup plus d'infos avec beaucoup plus de moyens et beaucoup moins de prélèvements.
Pour respecter les morts, et les vivants aujourd'hui ont besoin des morts. On va continuer de le découvrir en deuxième partie avec vous, Philippe Charlier, autour de la question comment la science fait parler les morts, découvrir justement tout ce qu'ils ont à nous dire. Ce sera juste après le flash d'info dans 3 minutes. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment la science fait parler les morts. Nous sommes en compagnie du médecin légiste et paléopathologiste Philippe Charlier qui vient de publier Scènes de crime aux éditions du Rocher et Quand la science explore l'histoire aux éditions Talendier.
À Mexico, dans l'ancien grand temple aztèque, on arrive grâce aux techniques de la médecine légiste à savoir où avaient lieu les sacrifices humains, tout simplement par telle ou telle concentration permettant de noter l'imprégnation du sang il y a maintenant des siècles. Et on arrive à trouver comment des sacrifices humains étaient effectués aux quatre points, par exemple, des pyramides, si je reste dans cette univers précolombien, et d'où provenaient ces personnes que l'on sacrifiait.
C'est l'historien Michel Pierre qui est lui aussi fasciné par votre discipline, Philippe Charlier, et par ce que les techniques de médecine légale arrivent à faire dire, aux scènes rituelles de crimes du passé.
En fait, il faut lire un site archéologique exactement comme si on analysait une scène de crime, tout simplement. Et les pyramides dont il parle sont exactement comparables à une scène de crime pour laquelle le cadavre aurait disparu. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique en archéologie? Eh bien, des techniques d'identification de sang altéré, des concentrations de fer par exemple.
Celles que l'on voit dans les séries américaines.
Celles que vous voyez de façon extrêmement fantasmée dans les séries américaines et celles qui sont beaucoup plus fastidieuses dans la vie quotidienne des techniciens d'investigation criminelle. En effet, c'est exactement la même chose. Et pourquoi l'archéologie à nouveau est utile? Parce que quand on revient sur une scène de crime une dizaine d'années plus tard, voire plus, eh bien ça s'est complètement désagrégé. Ça s'est complètement altéré. Le sang s'est oxydé, s'est altéré avec les ultraviolets, avec le temps, l'humidité, et on a une désagrégation qui est tout à fait comparable à celle fournie par l'archéologie. Donc l'archéologie est un excellent terreau pour améliorer nos techniques ensuite pour la justice.
Oui, parce que si on arrive à retrouver des scènes de crimes rituelles datant d'il y a plusieurs siècles, c'est plus facile d'attendre il y a quelques années, c'est ça, hein?
Exactement, et c'est pour ça que ces études-là sont publiées, des études archéologiques, mais elles sont publiées dans des revues médico-légales, parce que c'est vraiment utile pour nous, comme quand on a publié d'autres études, comme l'identification de la tête d'Henri IV.
Et oui, l'identification de la tête d'Henri IV, alors qui a été sujette à quelques polémiques, parce qu'on n'est pas absolument sûr que ce soit Henri IV.
On n'en était pas très sûr. Maintenant, là, c'est définitivement admis qu'il s'agit bien de la bonne tête, parce que, à nouveau, ça nous a poussé dans les retranchements pour imaginer une nouvelle technique d'identification qui est, avec un procédé informatique, on a superposé en trois dimensions, sur une quantité quasi infinie de points, les reliefs du crâne avec les reliefs du masque mortuaire. Et on obtient donc, sur une quantité quasi infinie de points, une correspondance anatomique parfaite. Ça ne peut pas être lié au hasard. La chance serait se compterait en millions ou milliards. Et du coup, il faut ensuite, au-delà du doute raisonnable, s'incliner devant le fait que oui, cette tête est véritablement la bonne.
Est-ce qu'en tant que médecin légiste, Philippe Charlier, quand on est face à la tête d'Henri IV ou face à des restes prétendus de Jeanne d'Arc, est-ce qu'on est dans la même situation, configuration interne quand on est devant un mort, on va dire, anonyme?
Je vais vous décevoir, mais oui. Exactement la même. On a cette neutralité, cette objectivité scientifique, ce relatif détachement. Et puis surtout, vous savez, on est là pour abattre du boulot et pour rendre un résultat rapide. Je pense que c'est le même comportement que vous auriez comme si vous aviez un prix Nobel en face de vous à interviewer, vous feriez votre boulot avec le même sérieux, sans faire la midinette. Voilà, c'est exactement
pareil.
Donc
vous ne faites pas la midinette devant le crâne d'Henri IV. Et vous avez aussi prouvé que des reliques de Jeanne d'Arc n'étaient pas celles de Jeanne d'Arc.
En effet, c'était des fragments de momies égyptiennes datés entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est hyper intéressant, c'est que sur le plan morphologique, ces reliques qui étaient conservées à Chinon ont vraiment un aspect brûlé. Quand on les regarde, c'est vrai que c'est noirâtre, il y a une petite gangue, comme si c'était des restes humains qui avaient été carbonisés. Sauf que quand on y regarde un petit peu plus précisément et quand on fait un travail d'équipe, on se rend compte que c'est pas carbonisé, mais que c'est du bitume qui est à la surface, donc des résidus de pétrole extrêmement denses. On se rend compte que la datation au carbone 14 ne colle pas du tout, et puis qu'il n'y a pas que des ossements humains, il y a aussi un fémur de chat. Et sur le plan archéozoologique, Marilène Patoumatis a fait l'identification de ce fémur de chat comme étant
une préhistorienne que nous connaissons bien.
Une préhistorienne et archéozoologue, maintenant spécialisée dans le Néandertal et dans la guerre préhistorique, et bien elle a montré que c'était une espèce endémique du Proche-Orient, donc absolument rien à voir du tout avec Jeanne d'Arc. En fait, c'était des fragments de momies égyptiennes, et là, la médecine légale et l'archéologie sont utiles à comprendre un fait historique. Replongeons-nous dans le 19e siècle, on est vers 1860. J'allais dire à Diane de Poitiers. Je confonds les patientes, pardon.
Les patientes, oui, toutes décédées. C'est Jeanne d'Arc et Diane de Poitiers. Bon, on revient sur Jeanne d'Arc.
Merci. Jeanne d'Arc, en fait, est disputée entre l'extrême gauche, l'extrême droite et l'Église. Tous les trois veulent se l'approprier. Et en fait, le premier qui va apporter, si je peux dire, du palpable, va gagner la mise.
Donc il faut trouver des restes de Jeanne d'Arc.
Il faut trouver des restes, mais il n'y en a plus. Il n'y a rien du tout. Il y a un poil ou un cheveu dans un seau, mais c'est pas suffisant. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on va prendre? Un apothicaire, au moment du procès de béatification de Jeanne d'Arc, va apporter, soi-disant, retrouvé par hasard dans ses affaires, un bocal contenant ses reliques. Sauf qu'en fait, il a pris ce qu'il avait dans son arrière-boutique, il a pris de la mumia, qu'on utilise pour arrêter les saignements, des fragments de momies égyptiennes, et il les fait passer en faisant un faux en écriture dans un bocal relativement ancien. Il dit, ben voilà, ce sont des fausses reliques. Enfin, il dit, ce sont des reliques de Jeanne d'Arc.
Une vraie enquête policière que vous menez en tant que médecin légiste, et que vous ne menez pas que en France, vous menez également ailleurs. Vous donnez des cours du côté du Bénin, on a quand même pas mal d'auditeurs, à l'Institut d'anthropologie médico-légale de Parakou, c'est ça?
En fait, c'est à la faculté de médecine de Parakou, où le doyen est un médecin qui est le docteur Luc Brun, qui travaille en microscopie à l'hôpital, me font venir périodiquement pour donner des cours à la fois d'anthropologie et aussi d'éthique médicale, anthropologie médico-légal. Et on mène vraiment des programmes de recherche communs ensemble sur la façon de faire des autopsies, la façon de les faire accepter par la population béninoise, qui renacle un tout petit peu à ce type d'ouverture du corps, ce que je peux tout à fait comprendre. Les coutumes sont différentes, tout simplement, et le rapport au corps mort ne l'est pas de la même façon. Et donc cet échange entre ma faculté, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et celle de Parakou est extrêmement fructueux, mais pas que dans le domaine de la médecine. Je travaille également grâce à Luc Brun, qui a des liens avec Abomey, qui est plus au sud du Bénin, une cité royale, une cité historique, où vous avez des temples classés à l'UNESCO et aussi des palais royaux. Eh bien, certains de ces palais royaux ont des murs, paraît-il, qui ont été faits avec, du moins a été incorporé dedans, du sang humain. 31 victimes, 31 est un chiffre sacré dans le vaudou, et 31 victimes ont été sacrifiées et leur sang a été amalgamé au mur de certains de ces palais. Palais du roi Glélé, par exemple. Et eh bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir sur le plan médico-légal si on peut identifier du sang, notamment de 31 individus différents, dans l'argile et dans le contenu de ce mur.
Et vous en êtes où dans cette recherche?
Alors, on trouve de l'ADN, en effet, de l'ADN humain, et on est en train d'essayer de voir si c'est l'ADN de l'artisan, qui laisse avec sa main, bien sûr, tout seul, ou s'il y a vraiment des composés sanguins, des éléments du sang, hématies ou globules blancs, qui seraient visibles. On travaille également sur des artefacts issus du vaudou, de la pratique du vaudou, qu'il s'agisse de patines, d'offrandes sur des legba, c'est-à-dire des divinités avec un phallus assez important, qu'il s'agisse également de ce qu'on appelle les fermes ta gueule, désolé pour l'expression, c'est un petit bec de canard.
Quoi, les fermes ta gueule?
En fait, quand quelqu'un vous embête profondément dans le vaudou béninois, vous allez dire des paroles à un canard, vous allez fermer la bouche du canard, enfin la bouche, le bec du canard, tuer le canard et lui mettre un cadenas au niveau de son bec, et fermer à clé et jeter la clé. Et tant qu'on ne réouvre pas le cadenas, eh bien, la personne qui vous veut du mal ne pourra pas proférer de mauvaises paroles. Ce qui est intéressant, c'est pas tant étudier le canard, je dois vous avouer, c'est surtout étudier toutes les patines et toutes les offrandes qui sont faites autour. Et ça, quels outils on utilise? Des outils médico-légaux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de sang qui sont utilisés. Sang de divers animaux et parfois du sang humain ou des éléments du corps humain comme des poils, des cheveux, des crachats et autres. Vous imaginez très bien que ce terreau-là, il est intéressant pour l'histoire de l'art, bien sûr, mais aussi pour nous, médecins légistes, sur le plan de l'identification individuelle, sur des traces biologiques qui ont été altérées.
Tout vous sert, hein, même les fermes ta gueule autour de la question « Comment la science fait parler les morts ?» Je propose un nouvel éclairage, Philippe Charlier, pour comprendre justement comment vous travaillez, comment vous les identifiez aussi, et vous le faites en interdisciplinarité, vous nous l'avez dit. C'est l'éclairage d'Isabelle Lemaner, elle est technicienne au laboratoire d'anatomopathologie de Garches, et avec qui vous avez d'ailleurs, je crois, longtemps travaillé. C'est un reportage un peu gore, signé Jérémy Bazar.
Nous recevons au laboratoire des prélèvements, ce sont plutôt des morceaux d'organes. Ils sont coupés en petites pièces de 3 mm d'épaisseur. Ils sont fixés dans du formol. Une fois fixés, on les imprègne pour pouvoir les inclure en paraffine, pour pouvoir couper, faire des coupes de 3 microns. Les coupes de 3 microns sont étalées sur des lames et lues au microscope par les médecins.
Quel type de tissu vous découpez ?
Tout. Alors ça peut être du tissu mou, entre guillemets, ou du dur, quand ces deux os sont décalcifiés avec un petit passage par l'acide nitrique, mais n'importe quelle partie du corps humain peut être coupée.
Donc on peut faire des petites découpes sur des blocs que vous avez déjà préparés. Qu'est-ce que c'est ça ?
Alors par exemple un poumon. Alors dans un premier temps, j'avance le bloc et ensuite je coupe à 3 microns du poumon. Et c'est plus fin que du papier à cigarette. C'est très difficile à manier parce que c'est plein de vide, on va dire. Le cœur, par exemple, c'est déjà un petit peu plus dense. Et on entend à la coupe. Il n'y a pas les petits trous du poumon.
L'épaisseur est toujours la même. Le matériau est plus dense, mais l'épaisseur est la même.
L'épaisseur est la même, mais il y a moins de matériaux puisque il y a moins de vide, on va dire. Là, j'ai du cerveau. C'est mou et en même temps, c'est plus facile à attraper. Et par contre, si on a des morceaux de corps humain, soit momifiés ou soit des gens qui ont été retrouvés décédés après plusieurs jours, où on peut avoir soit des putréfiés, et dans ces cas-là, les prélèvements vont ressembler plutôt à du poumon, c'est un petit peu mou, c'est un petit peu spongieux à couper. Et quelquefois, on retrouve des personnes décédées dans un état de momie, on va dire. Et ça ressemble à du parchemin quand on coupe. C'est assez dur, c'est assez friable. Alors là, c'est très difficile à couper. Mais on aurait de l'os, ce serait la même chose. C'est tellement dense, tellement dur, ça abîme le rasoir, on a du mal à prendre une coupe très très bien formée.
Vous ressentez la matière ?
On ressent totalement la matière, on sent les granulations, les calcifications à travers la manivelle. Ça accroche, en fait.
Est-ce que du coup, il y a des tissus que vous redoutez un petit peu quand on vous demande de faire une découpe, parce que vous avez peur que la coupe soit pas nette, soit pas franche ?
Je redoute beaucoup les caillots. Le sang, c'est très difficile, parce que ça fait souvent des petits rouleaux. Il y a des autopsies beaucoup plus faciles, des prélèvements beaucoup plus faciles à couper que d'autres, effectivement. On va dire un mort qui est autopsié très vite est souvent plus facile à couper que quelqu'un qui est retrouvé noyé après plusieurs mois dans l'eau, ou que quelqu'un qui est retrouvé momifié, ou même tout simplement une personne âgée qui a beaucoup de calcifications dans les poumons ou dans les artères. C'est toujours plus difficile que quelqu'un qui a un morceau de foie tout bête d'une personne saine.
Un mort frais, c'est plus facile. Vous confirmez, Philippe Charlier, les propos d'Isabelle Lemanner du laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital de Garches.
D'abord, ça fait très plaisir de réentendre Isabelle et elle a entièrement raison. En effet, les corps frais, les corps récents, c'est ce qu'elle veut dire, qui ne sont pas décomposés ou putréfiés, sont beaucoup plus faciles à couper parce qu'ils ont encore de la tenue, tout simplement. Les fibres de collagène sont en bon état, il n'y a pas de désagrégation liée à l'action des bactéries, tout simplement. Et c'est vrai que la pauvre Isabelle, quand je lui ai demandé de couper des fragments de momies égyptiennes ou de momies récentes, hein, des gens retrouvés sur leur lit morts 17 ans ou 20 ans avant, mais vous savez maintenant avec les liens familiaux qui s'altèrent, eh bien on va pas voir ses grands-parents et un jour avec le paiement automatisé, eh ben on se rend compte qu'ils sont morts depuis 5 ans, 6 ans, quoi que ce soit.
Vous voyez des cas comme ça ?
Ah oui, on voit des cas comme ça. Mmh. Donc c'est assez lamentable pour être très franc. Toujours est-il que Isabelle a raison, ça se coupe bien moins facilement ces artefacts archéologiques ou encore ces corps que le temps a un petit peu altéré.
Isabelle Lemanner, elle a travaillé avec vous hein, pour identifier notamment des morts illustres.
Oui, notamment elle a travaillé sur les cheveux de Louis XI et de son épouse Charlotte de Savoie. Elle a fait des prélèvements pour Agnès Sorel, pour Diane de Poitiers.
On va y revenir hein, sur tous ces cheveux parce que c'est une partie très intéressante, mais autour de la question comment la science fait parler les morts, je propose une nouvelle question, c'est celle du géologue Charles Frankel, parce que lui, il est spécialiste des volcans et de leurs éruptions dans l'histoire, et il a une question pour vous.
En ce qui concerne les cadavres qu'on a retrouvés à Saint-Pierre-de-la-Martinique pour la terrible éruption de la montagne Pelée en mai 1902, on pense qu'ils sont morts instantanément par la nuit ardente, mais je me demande s'il y a eu effectivement une médecine légale qui a été faite sur les cadavres de Saint-Pierre, parce que je pense finalement qu'hélas, ils ont dû souffrir.
Votre réponse, Philippe Charlier.
Il a entièrement raison, ils ont dû souffrir, mais heureusement pas très longtemps. Lorsque la catastrophe a eu lieu, il y a eu un enterrement précipité, on va dire, de toutes les dépouilles qui ont été retrouvées. Et en effet, la priorité n'était pas du tout celle d'un examen médico-légal. Surtout qu'il y avait des témoins qui ont vraiment bien décrit les nuées ardentes. Et puis, il y a un rescapé mythique, si je peux dire, qui était dans son cachot dans la prison et qui, lui, a été protégé des nuées ardentes et qui était quasiment un des rares rescapés de Saint-Pierre. Il arrive encore de temps en temps, lorsque lorsqu'on fait des chantiers de construction dans Saint-Pierre, j'y étais il y a 3 ou 4 ans, eh bien, il arrive qu'on retrouve parfois des ossements qui présentent un aspect vitrifié très, très caractéristique de ces nuées ardentes. Un aspect que j'ai constaté également sur des squelettes d'Herculanum cet été, où j'étais avec Luigi Capasso, dans son laboratoire.
Pourtant, c'était une éruption bien, bien plus ancienne. Hein,
une éruption bien plus ancienne, mais à nouveau un phénomène de nuée ardente avec, de la même façon, eh bien, ces gouttelettes noirâtres qui correspondent à la liquéfaction quasi instantanée du corps humain, des éléments organiques du corps humain, et qui ensuite vont faire des sortes de globules noirâtres à la surface des ossements, avec parfois des éclatements osseux, tellement l'élévation de température a été brutale. On a la même chose à Saint-Pierre, hélas, c'est caractéristique d'une mort extrêmement rapide, j'espère.
Et ce qui permet aussi peut-être, Philippe Charlier, de quoi de mieux comprendre ces phénomènes, ce qui se passe pour aujourd'hui, pour malheureusement d'autres catastrophes qui pourraient survenir, ça peut amener un éclairage aussi.
Ça permet de mieux les diagnostiquer tout simplement, et ça permet lorsqu'on retrouve un squelette présentant ce type d'anomalie, bien sûr que c'est pas un crime qui a été maquillé. Voilà, tuer quelqu'un et l'enfouir dans des déblais anciens pourrait passer pour un crime parfait. Je vous le dis tout de suite et je dissuade immédiatement les auditeurs.
Il n'y a pas de crime parfait.
Ce n'est pas la bonne façon. Il y a des crimes parfaits, mais...
Ah, même pour les médecins légistes,
mais notre morale et notre éthique de médecin légiste nous interdit de communiquer à ce sujet.
Merci Philippe Charlier. Autour de la question, comment la science fait parler les morts? Ben, on a parlé de cheveux à l'instant, hein, parce que c'est souvent un peu tiré par les cheveux, vos enquêtes. Allez, on écoute François Envy, Atlas Mountain, extrait de son dernier album, La fille aux cheveux de soie, et on revient pour couper les cheveux en bien plus que 4. Cheveux de soie, extrait du dernier album de François M. Atlas Mountain sur RFI. Autour de la question comment la science fait parler les morts, ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que pour explorer et mettre à jour les causes des morts, pas toujours si naturelles que ça, de vos patients illustres ou anonymes, Philippe Charlier, vous faites souvent appel aux toxicologues comme Joël Poupon, avec qui vous avez notamment travaillé sur les cheveux de la belle Agnès Sorel. On va y venir tout de suite, mais on écoute d'abord le toxicologue Joël Poupon de l'hôpital Lariboisière, qui coupe les cheveux en bien plus que 4 au micro de Jérémy Bazar.
L'analyse du cheveu, il faut la réserver à des cas très précis, essentiellement l'arsenic. Alors on a des cas où en segmentant le cheveu, par exemple centimètre par centimètre, sachant qu'un cheveu pousse d'un centimètre par mois, et on peut remonter assez facilement à 3, 4, 5 mois. On a eu comme ça deux cas il y a relativement récents, dont une où on n'avait pas exactement la date d'exposition à l'arsenic et on l'a retrouvé, ça collait bien avec les premiers symptômes.
Concrètement, quand un cheveu arrive,
Vous utilisez quoi comme matériel pour effectuer ces analyses?
Concrètement, d'abord, on commence par le laver, pour éviter toute contamination externe qui serait venue se déposer sur le cheveu. Ensuite, on va en prélever une mèche bien identifiée. On va bien repérer la partie qui est à la racine et la pointe. Et ensuite, on va les passer dans le fameux spectromètre qui va nous dire ce que contient le cheveu. Donc ici, c'est un des spectromètres dont je vous parlais. C'est un spectromètre d'émission atomique. On va chauffer l'échantillon à peu près à 6000 degrés ici. À 6000 degrés, bon, il n'y a rien de résiste, hein, donc vous détruisez tout votre échantillon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir libérer les atomes. Et à partir de ce moment-là, on va tellement les chauffer qu'ils vont émettre de la lumière. Et qu'on, vous voyez ici la source très chaude, lumineuse. Et au fur et à mesure, ben, l'appareil compte les photons. Et vous entendez l'imprimante qui sort des résultats régulièrement. Alors ici, ça c'est un dosage d'aluminium, par exemple, dans le sang.
Vous avez reconnu au son de l'imprimante?
Non, pas du tout. Je vois que c'est marqué aluminium. Donc là, il y a toute une démarche analytique du plus simple jusqu'au plus compliqué qui est assez intéressante. Moi, ce qui me plaît, c'est l'analyse. J'adore voir, je dirais, l'invisible.
Voir l'invisible, jolie formule du toxicologue Joël Poupon. Philippe Charrier, l'invisible, il se niche dans les cheveux.
Comme le dit Joël Poupon, qui est vraiment un très cher ami et un excellent praticien, le cheveu est vraiment un des substrats les plus idéaux pour la toxicologie, parce que c'est un endroit où se stockent énormément de métaux, d'éléments et de polluants auxquels est soumis l'individu au cours de son existence. Ça peut être des médicaments qu'il a pris, ça peut être aussi une activité professionnelle qui l'a mis en rapport.
Ça reste dans les cheveux.
Ça reste dans les cheveux. Alors, quand on se teint les cheveux, on peut altérer un petit peu tout ceci, mais avec un rythme de croissance d'à peu près 1 cm par mois, quand on a de très longs cheveux, ça nous permet de remonter le temps de l'imprégnation en toxique de l'individu.
Et c'est ce que vous avez fait notamment pour la belle Agnès Sorel, c'est
ça ? Pour Agnès Sorel, qui était la favorite du roi Charles VII, qui est morte à 28 ans en 1450, eh bien sur ses cheveux, qui faisaient à peu près une vingtaine de centimètres, on a donc pu remonter largement plus d'une dizaine d'années à peu près, en arrière.
Et la question qui se posait, c'est de savoir quoi. Si elle s'était suicidée, si elle était morte de mort naturelle,
en fait,
si elle était empoisonnée.
On savait qu'elle était morte de ce qu'on appelait un flux de ventre, c'est-à-dire une perte de matière au niveau intestinal, en bas, on va dire, je vais être pudique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait pris une quantité extrêmement importante de mercure. 10 000 à 100 000 fois la dose généralement prescrite quand il s'agissait de traiter des vers intestinaux. Donc, généralement, le mercure provoque, on va dire, une purge intestinale, mais là, elle a pris une dose beaucoup trop importante, qui était une dose toxique, qui cause généralement la mort en 48-72 heures, vu le dosage. Difficile ensuite à dire, parce que, comme dit Joël, on voit l'invisible, on a un résultat brut de décoffrage, mais ensuite, c'est aux historiens
d'interpréter.
Comme si on fournissait un résultat aux policiers actuellement. Les historiens sont les policiers du passé, tout simplement. Ils font le même type d'enquête et il faut dire maintenant si c'est criminel, donc un assassinat, ou si c'est un accident thérapeutique, c'est bien possible, une erreur de dilution, c'est un peu gros, mais c'est néanmoins faisable. Et peut-être un suicide aussi. Agnès Sorel venait de perdre son 4e et dernier enfant, dont on a retrouvé les restes dans son urne funéraire. Nouveau-né, si je peux dire, assez prématuré de 7 mois à peu près, ce qui est bien trop jeune en termes à l'époque, et du coup il n'a pas pu survivre. Donc tout ceci fait un contexte propice autant à une hypothèse criminelle qu'accidentelle ou suicidaire.
Donc c'est aux historiens de décider. En tout cas, comment dire, les reines de beauté dans le passé, vous en avez autopsié d'autres, si j'ose dire, Diane de Poitiers ?
Diane de Poitiers aussi, qui est une autre favorite. Celle-ci était la favorite, la maîtresse de Henri II. Elle est morte en 1566 à 66 ans. Et elle, c'est un autre toxique qui a été mis en évidence par Joël Poupon.
Dans ses cheveux aussi ?
Dans ses cheveux et dans son... Pardon, c'est pas très ragoûtant, mais fluide de putréfaction. C'est ce qu'il reste du corps d'un individu quand il s'est complètement liquéfié et ça fait une sorte de soupe qui se redépose ensuite à la surface des ossements. Et tout ceci regorgeait d'or en assez grande quantité, sauf que là, on savait déjà par les commentateurs historiques, des contemporains de Diane de Poitiers, qu'elle provenait de l'or potable, c'est-à-dire des sels d'or. Pour rester éternellement jeune, on considérait à l'époque que l'or, métal inaltérable, allait rendre inaltérable celui ou celle qui en buvait. C'est un véritable élixir de jouvence.
Et c'est cela qui a causé sa mort, ou qui l'a empoisonné petit à petit?
C'est ça qui l'a empoisonné à petit feu, tout simplement.
Philippe Charny, cette proximité avec tous ces morts du passé, du présent, ça vous a changé? Enfin, ça a changé l'homme ou le jeune étudiant que vous étiez à l'époque? Vous n'êtes pas si vieux que ça aujourd'hui. Hein,
mais... C'est gentil, j'ai 37 ans. Écoutez, ça ne m'a pas tellement changé que ça, parce que c'est vraiment une partie infime de mon travail. C'est la partie qui reste, parce que c'est celle dont on peut parler, c'est celle qui parle le plus, qui évoque le plus de souvenirs chez vous. Mais les squelettes archéologiques, en ce qui concerne mon activité de médecin hospitalier, c'est une partie vraiment infime, c'est la partie de la recherche, tout simplement. Alors oui, ce sont des patients qui sont originaux, qui sont intéressants. Ça me donne une relative proximité. Quand je vois un portrait d'Agnès Sorel ou quand je passe devant une statue de Diane de Poitiers, je me dis, ah, tiens, je suis content.
Je l'ai approché de très près.
Bah, je suis content de voir, c'est comme si je voyais, c'est comme si je croisais mes patients vivants, si j'étais un médecin de famille, en faisant le marché sur la place du village.
Vos patients, à vous, ils sont tous morts. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours votre Twitter, vous appelez Doc Trotard, c'est ça?
Oui,
sur
exact.
Twitter.
Tout à fait, oui.
Merci infiniment, Philippe Charly, d'être venu en direct nous faire partager votre expérience et vos recherches. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Quand la science explore l'histoire, aux éditions Talendier. On peut signaler également Scène de crime, scène comme la scène à Paris. Livre de photographie de la préfecture de police que vous avez dirigé aux éditions du Rocher. Merci à vous et
merci
à bientôt,
Caroline.
Peut-être du côté du Bénin, qui sait.
Avec plaisir.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro, amis auditeurs. Quant à nous, Charles Pélabon, Caroline Fillette et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour de nouvelles interrogations. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Dans quelques instants, une poignée de secondes, un nouveau journal sur RFI.
Ici l'Europe.